Donc nous revenons sur notre thème de la fois dernière, à savoir la parole de Dieu, le Logos et le Réma. On n'a pas besoin d'un diplôme, d'un certain diplôme académique pour comprendre ces deux concepts donc, que nous sommes en train d'examiner. Leur connaissance est d'une importance capitale pour chacun de nous si nous voulons vraiment expérimenter la grâce de Dieu, la puissance de Dieu dans notre vie de tous les jours. La parole de Dieu, le Logos et le Réma. Donc, c'est le deuxième épisode par rapport à ce thème. Nous allons lire le premier passage que nous avons lu déjà la fois dernière, à savoir Éphésiens 6, à partir du verset 10, passage qui nous parle justement de l'armure, de la panoplie spirituelle, de l'arsenal divin mis à notre disposition pour nous permettre, mes amis, de demeurer dans le triomphe de la croix, pour aller de victoire en victoire, et ce, quelle que soit la nature du combat dans lequel nous sommes engagés. Verset 10, nous lisons à partir du verset 10, « Au reste, nous dit la parole, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Et je vous dirai que dans ces temps de la fin, eh bien, le diable redouble d'attaque contre l'Église, contre tous ceux qui sont en Christ. Eh bien, nous assistons à des manœuvres du diable sans précédent. Et personne ne peut tenir si le Saint-Esprit n'est pas avec lui, s'il n'a pas à sa portée, non seulement les armes que Dieu a mises à notre disposition, mais s'il ne sait pas aussi les manier. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre ce qui est visible, contre ce qui est physique, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi, voilà, c'est le verset qui nous intéresse, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur, et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler, et gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Non, je vérifie, j'ai toujours mon petit Nouveau Testament en grec, donc je dois être sûr. Voilà, que Dieu soit béni. Alléluia. La parole de Dieu. Depuis quelque temps, nous essayons d'attirer votre attention sur l'armure que le Seigneur a mise à notre disposition, sur cette panoplie spirituelle, sur ces armes puissantes devant Dieu qui sont là à notre disposition et qui sont appelées donc à nous maintenir dans la victoire que le Seigneur nous a acquise à Golgotha, des armes, mes amis, qui sont là pour nous permettre de tenir bon dans les mauvais jours, de faire face aux manœuvres, aux attaques, aux assauts du diable. Et parmi les armes, nous les avons lues, hein, elles sont énumérées dans ce passage, nous aurons, le Seigneur voulant, eh bien, à les examiner les unes après les autres. Mais parmi ces armes, il y en a deux, mes amis, qui sont deux principales armes. Les deux armes majeures, premièrement, il y a la parole de Dieu qui nous est révélée comme étant l'épée de l'Esprit. Et dans ce combat, mes amis, nous avons besoin de cette épée. Et puis ensuite, il y a la prière, pas n'importe quelle prière, mais la prière par l'Esprit et avec toutes sortes de prières et de supplications. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et par rapport donc à cette arme majeure que la parole de Dieu qui nous est révélée, qui nous est présentée comme étant le glaive, comme étant l'épée de l'esprit, eh bien, nous avons attiré votre attention sur le fait que dans le Nouveau Testament, nous avons deux mots grecs, puisque le Nouveau Testament dans son entièreté a donc été écrit en grec, nous avons deux mots grecs pour désigner la parole. Il est donc important, si nous voulons comprendre, mes amis, ce que la parole signifie dans le contexte de la révélation de Dieu à l'humanité, il est donc important que nous puissions regarder autour et alentour de ces deux mots, à savoir le logos et le rhéma, pour mieux comprendre et puis ensuite mieux expérimenter cette parole qui se révèle à nous à la fois comme le logos et comme le rhéma. Et la fois dernière, nous avons parlé du logos. Qu'est-ce que c'est le logos? Je ne veux pas revenir sur ce que nous avons vu la fois dernière, mais de manière générale, nous avons dit que lorsqu'il est question du logos, et nous avons lu ensemble toute une série de passages où le mot logos apparaît et où à chaque fois ce mot est traduit par la parole de Dieu, eh bien, le logos représente surtout la parole de Dieu dans son ensemble, voyez-vous, c'est-à-dire la parole de Dieu dont la Bible est le principal véhicule. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de toute l'Écriture, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Donc, le Logos est une parole qui a déjà été donnée. Nous avons, la foi, eh bien, se nourrit de la Bible protestante avec les 66 livres, eh bien, nous avons cette parole, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui nous a été donnée une fois pour toutes. Elle est là. On n'a plus besoin d'un autre livre de révélation. Faites très très attention. La vraie révélation, eh bien, c'est celle qui se fonde. C'est celle qui nous vient au travers de la parole écrite. Elle reste une référence pour nous. Voyez-vous. Donc, quand nous parlons du Logos, nous parlons de manière générale de la parole écrite. Cette parole a été donnée une fois pour toutes. Donc, la révélation est close. Personne ne peut venir et dire, voilà, Dieu vient de me révéler, donc jusque-là, il y avait 27 livres, et il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, Dieu vient de me révéler le 28e livre. Si vous tombez sur un aventurier pareil, eh bien, tournez-lui tout de suite le dos. C'est très dangereux. Tout ce dont nous avons besoin pour notre foi, pour mieux connaître le Seigneur, pour mieux interagir avec lui, pour expérimenter sa puissance au quotidien, tout cela nous est révélé par et au travers de 27 livres du Nouveau Testament. Je suis dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Il en est de même de l'Ancien Testament. Donc voilà le Logos, une parole qui a été donnée une fois pour toutes, les Saintes Écritures, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'ailleurs, pour encore nous permettre de mieux comprendre ce concept du Logos comme étant un terme utilisé pour parler de la parole, de l'Écriture sainte, de cette parole qui a été donnée une fois pour toutes, donc au travers de 66 livres, eh bien Luc, chapitre 1, verset 1, j'aime beaucoup Luc. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'étudier le grec, même le grec classique, eh bien, ils savent que la plus belle phrase oratoire en grec, dans tout le Nouveau Testament, nous la trouvons ici, dans Luc chapitre 1, verset 1. Quand vous lisez ça, je vous assure, enfin, quand on connaît cette langue, on se dit, mais cet homme connaissait, maîtrisait très bien le grec. Que nous dit-il? Puisque Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Nous nous arrêtons là. Les témoins oculaires. Un témoin oculaire, c'est celui qui a vu les choses dont il parle, n'est-ce pas? Il est témoin, il a vu. On ne lui a pas dit, il n'a pas entendu, mais il a vu de ses propres yeux. Eh bien, ces témoins oculaires ne sont autres que tous ces apôtres, tous ceux qui ont accompagné le Seigneur durant son séjour ici-bas, depuis son baptême de Jean jusqu'à sa mort, à sa résurrection, à son exaltation et à son ascension. Donc, tout cela sont des témoins oculaires. Et la Bible nous dit qu'ils sont devenus les serviteurs de la parole. Eh bien, c'est le mot logos, une fois de plus, qui est là. Ils sont devenus serviteurs du logos. De quel logos? Eh bien, de la parole de Dieu. Et de toute la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quelques exemples très rapidement pour vous permettre de comprendre. Eh bien, prenons le cas de l'apôtre Pierre. Nous sommes au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend en réponse à la promesse du Seigneur, à la prière et à la persévérance dans l'obéissance des apôtres. Et Pierre prend la parole ce jour-là et il prêche. Comment commence-t-il sa prédication? Il commence sa prédication en se référant à l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il commence avec la prophétie du prophète Joël. Pour terminer sa prédication, vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 2, pour terminer sa prédication avec la mort, la résurrection et l'exaltation de Jésus, alléluia. Et montrer à tous ces juifs, à tous ces prosélytes, à tous ces gens qui étaient à Jérusalem pour Pâques et puis Pentecôte, à tous ces gens-là, que Jésus est vraiment l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, et que celui que le Messie a attendu. Donc, Pierre était devenu serviteur du Logos de Dieu, n'est-ce pas? Et nous voyons là, dans sa prédication, eh bien, se référer à l'Ancien Testament, et puis amener aux gens à l'œuvre du Christ accomplie à Golgotha. Nous allons trouver le même schéma dans la prédication des autres apôtres. Lisez par exemple l'épître de Jacques, frère du Seigneur, fils de Marie. Vous verrez que dans son épître, lui aussi se réfère à l'Ancien Testament, et puis il amène le Jean à Christ, au Nouveau Testament. Paul, c'est la même chose. Que vous lisiez Romains ou d'autres épîtres, vous allez voir qu'il y a des références, qu'il y a des allusions à l'Ancien Testament. Donc c'est ça le Logos, c'est la parole qui a été donnée une fois pour toutes et que nous avons à travers les Saintes Écritures. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Saluez-moi si vous êtes avec moi. Ah ben, je vous salue également. Et gloire à Dieu. Paul aussi, entre autres, dans Actes 12, nous le trouvons là, dans une synagogue. Et il prêche, lui aussi serviteur de la parole. Quelle parole prêche-t-il, le Logos? Et en quoi, quel était le contenu de ce Logos? Eh bien, il est parti, comme il s'adressait aux Juifs, il est parti de l'Ancien Testament, vous pouvez lire ça dans Actes 12, donc 12, 14 à 43, il est parti de l'Ancien Testament pour ramener tous ces Juifs à la foi en Jésus-Christ. Et certains finirent par croire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, c'est ça le Logos. C'est la parole écrite. C'est la parole qui est révélée une fois pour toutes. D'ailleurs, le Seigneur lui-même nous est révélé comme étant le Logos, comme étant le Verbe, comme étant la parole qui existe de toute éternité, qui était auprès de Dieu, cette parole par laquelle tout est venu à l'existence. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer Avec l'autre terme, Réma, puisque nous allons beaucoup nous attarder sur cette notion de Réma, j'aimerais que nous regardions un tout petit peu au résultat du Logos dans la vie de ceux qui le reçoivent, le Logos, c'est-à-dire ceux qui reçoivent cette parole écrite, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Eh bien, la réception, l'accueil du Logos, qui est la parole de Dieu dans notre vie, produit toujours des effets bénéfiques. Vous comprenez pourquoi la Bible nous encourage à lire, à méditer les Saintes Écritures. Parce qu'aussi bien, aussi bien l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, eh bien, est une révélation de Dieu pour nous. Nous devons la lire. Donc, nous devons accueillir le Logos. Je vous encourage à lire. Chaque année, en début de chaque année, nous vous offrons un feuillet avec un calendrier qui vous permette de lire toute la Bible en une année. Vous devez vous familiariser avec cette parole. Vous devez la connaître, ce Logos, car sa connaissance a toujours des effets bénéfiques. Alléluia. Combien de fois vous avez été bénis après avoir médité dans, l'Ancien Testament, dans les cinq livres de Moïse, dans les livres historiques, dans le psaume, voyez-vous, dans les livres des prophètes. Oui, il y a toujours une bénédiction. En effet, le Logos, éclairé par le Saint-Esprit, change le croyant dans sa mentalité, dans sa façon de penser, et ce de manière progressive et continue. Il faut que cette parole, mes amis, arrive à nous impacter. Mais elle ne peut pas arriver à nous influencer. Elle ne peut pas arriver à changer notre mentalité si nous n'avons pas de contact permanent avec cette parole. La lire régulièrement. Voyez-vous, vous imposez une certaine discipline. Voyez-vous, la lire. Évidemment, à côté de ça, vous pouvez lire d'autres livres. Il faut vous instruire. Hein. Voyez-vous, ne dites pas, oui, mais moi j'ai terminé mes études il y a 40 ans. Non. Voyez-vous, on est tous des étudiants dans la vie. Oui, il faut apprendre, il faut étudier. Voilà, lisez de tout. Mais évidemment, pas de choses qui vont vous détruire. Je parle de choses qui vont renouveler votre mentalité, qui vont vous permettre de comprendre les enjeux sur le plan sociologique, etc. Donc le Logos renouvelle notre intelligence. Et accomplit un travail en nous, un travail à long terme de régénération, de restauration, de transformation. Travail qui nous rend, mes amis, capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait. Alléluia. Comment savoir ce qui est agréable à Dieu? Eh bien, nous le trouvons dans la Bible, oui ou non? Comment savoir ce qui est bon pour nous? Eh bien, nous le trouvons dans la Bible. Comment connaître la volonté de Dieu? Mais c'est en lisant, c'est en méditant le Logos écrit. Donc vous voyez que le Logos a des effets bénéfiques. Voyez-vous? Nous devons l'étudier. Enfin, nous le verrons, il y a une nuance. Il faut laisser la Bible nous étudier. Vous avez compris? Elle doit nous étudier. Je reviendrai là-dessus si nous avons le temps. Voilà donc le travail du Logos en nous. Et ce travail-là est bien illustré, bien démontré par 1 Thessaloniciens 2:13. Nous lisons ce passage et puis ensuite nous passons au deuxième mot utilisé dans le Nouveau Testament, à savoir la parole de Dieu comme étant le Réma. 1 Thessaloniciens 2:13, écoutez ce que la Bible nous dit. Si on peut balancer ça, oui, ok, merci. C'est pourquoi, dit l'apôtre, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole, et ici c'est le mot Logos, en recevant le Logos que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli non comme le Logos des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire la parole. Hein. La parole, le Logos de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voilà. Ça résume le travail de Logos. Donc le travail, cette parole écrite, quand vous lisez un verset, un passage, laissez, mes amis, cette parole imprégner votre pensée. Faites tout pour que cette parole arrive à se déposer dans votre cœur. Voilà pourquoi il est toujours important de prier avant de vous mettre à méditer, avant de vous mettre à étudier la parole de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de pouvoir pénétrer cette parole et la comprendre. Nous voyons donc que le Logos de Dieu agit de manière générale dans le cœur du croyant, de manière globale, voyez-vous. Eh bien, c'est le travail que cette parole fait. Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Eh bien, cette parole a cette capacité de renouveler notre intelligence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, quand la Bible dit « soyez saints », c'est écrit, non? Oui ou non? Soyez saints comme je suis saint. C'est le Logos, il est écrit une fois pour toutes. Cette parole n'est pas destinée à une catégorie de chrétiens. Cette parole nous concerne tous. C'est ça le Logos. Voilà. Soyez saints. Craignez Dieu. Eh bien, c'est nous tous. Vous voyez. Donc, le Logos est appelé à avoir toute sa place en nous, comme nous venons de le lire. Il est appelé à agir en nous qui croyons, en nous qui avons placé toute notre confiance dans le Seigneur. Voilà donc brièvement ce que nous pouvons dire sur le Logos. Il y a tant de choses à dire, comme quelques personnes m'ont suggéré, parce qu'ils m'ont dit, pasteur, et si vous faisiez ça sous forme d'un séminaire? Je me suis dit, en tout cas, ça serait une bonne chose, oui ou non? Parce qu'il y a tant de choses à dire que je ne peux pas tout dire en un temps, puisque nous avons un temps très très limité. Voilà. Alors, le deuxième mot utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner la parole, eh bien, c'est le mot « rhéma ». Eh oui, on entend partout. Pas seulement « rhéma logos », hein, comme je l'ai dit le dimanche dernier. Ce mot « rhéma » est utilisé presque 68 fois dans le Nouveau Testament et est traduit 47 fois sur les 68 occurrences, 47 fois par le mot « parole » et les autres fois par des mots similaires que nous verrons très rapidement, puisque le but c'est de voir surtout le sens de la parole. Et gloire à Dieu. Donc, voilà le mot rhéma, ces occurrences, 68 fois dans le Nouveau Testament. Quand on sait qu'il y a 27 livres, eh bien, c'est presque trois occurrences de ce mot par livre, à peu près. Lorsque nous regardons à ce mot, eh bien, nous voyons qu'il y a une constante, c'est-à-dire lorsque nous lisons la parole de Dieu en grec, là où ce mot est utilisé, nous remarquons une chose, c'est qu'il y a une constante qui saute aux yeux et qui démarque ce mot assez nettement du Logos, qui nous montre qu'il y a une différence entre ces deux mots. Il s'agit pratiquement toujours d'un témoin, lorsqu'il est question de rhéma, d'un témoin qui rapporte une parole entendue et reçue de la part du Seigneur pour un besoin spécifique et particulier. Voilà. À part quelques exceptions où ce mot-là est traduit par affaire, faire les affaires, ou chose, discours, j'aimerais très rapidement vous donner les différents sens que ce mot revêt dans le contexte où il est traduit par parole. C'est important, très important, car c'est une question de vie ou de mort, de guérison ou de maladie. Il y a des gens à qui Dieu a déposé le rhéma dans leur cœur pour un besoin particulier, mais par ignorance. Ils ne se sont pas levés pour saisir cette parole et ils sont passés à côté de la bénédiction. Voilà pourquoi je vous dis que c'est une question de vie ou de mort, de guérison ou de pas guérison, de direction ou de pas direction. Dieu vous a parlé, vous cherchez sa volonté, vous lui demandiez où vous deviez partir, c'est à quoi il vous a appelé, et bien il vous a parlé, il a déposé le rhéma dans votre cœur. Mais comme, soit étant distrait ou ne connaissant pas ça, eh bien, vous êtes passé à côté de la bénédiction. Voilà pourquoi je prendrai un peu de temps pour prendre, enfin pour vous amener à des exemples concrets des hommes, des femmes qui ont reçu ce rhéma et comment ce rhéma a stimulé leur foi ou a suscité une foi pour un miracle particulier dans un contexte particulier. Alors, dans plusieurs contextes, quand il est question de, du rhéma, il est donc question d'une parole, je dis bien, d'une parole reçue de Dieu. Une parole personnelle de Dieu à un homme ou à une femme en particulier. Ce n'est pas une parole qui s'adresse à tout le monde comme le Logos. Et cette parole, eh bien, ça peut être un verset de la Bible que tout le monde peut lire. Mais à un certain moment, ce verset vous touche comme jamais. À un moment, il y a quelque chose qui se passe. Ce verset devient comme prend corps avec votre cœur. Voyez-vous? Donc, le rhéma, parole de direction particulière. Voyez? Nous avançons tous, nous nous dirigeons vers le ciel. Mais nous ne sommes pas tous appelés à prendre les mêmes sentiers, les mêmes voies. Voyez? Dieu a tracé une voie pour chacun de nous. Nous l'avons vu pendant plusieurs dimanches. C'est donc à nous de marcher sur cette voie. La sainteté nous permet d'être dans la direction de cette voie-là. Mais à un certain moment, il y a un détour, il y a un virage. Comment savoir que c'est là ce que le Seigneur attend de nous? C'est là l'importance, mes amis, du rhéma. L'importance d'avoir une communion profonde avec le Seigneur. Car, comme nous l'avons vu le dimanche dernier, il faut que quelque chose se passe en amont si nous voulons vraiment expérimenter la puissance de Dieu sous forme de rhéma en aval. Le rhéma, eh bien, c'est une citation d'une parole précise de la Bible pour une situation ou une circonstance. J'ai beaucoup, beaucoup de témoignages. Et un de mes en 2018, comme vous le savez, j'avais été hospitalisé. Je me souviens, on m'a amené, j'étais là, ben bon, je ne voyais pas tellement des différences, mais enfin, quand ils ont fait les examens, alerte générale. Quand on m'amène dans cet hôpital universitaire, quand je sors, enfin tout le monde s'attendait à ce qu'on m'amène sur une civière, et là, quand l'ascenseur s'ouvre, eh bien l'équipe médicale, dirigée par un professeur en hématologie qui m'attendait, est surprise. Il voit un homme qui descend et qui marche. Après, on m'a prête une chambre, on m'amène dans la chambre, et puis quelques temps après, le professeur revient avec ses assistants. Je me souviens, mes deux garçons étaient là, j'étais couché dans le lit, je l'écoutais. Elle me dit, c'était une dame, elle me dit, monsieur, vous êtes ici pour longtemps. Vous entendez ça, un médecin qui vous dit, oh là 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 là. Vous êtes ici pour longtemps, monsieur. Nous ne savons pas quelle est la cause qui est à la base de votre souffrance. Et puis elle énumère et tout ça. Pendant qu'elle parlait, évidemment j'étais en prière, j'avais déjà prié et tout ça, j'étais en paix. Je la regardais, je regardais mes enfants. J'ai toujours aimé savoir ce qu'ils pensaient à cet instant précis, regardant leur papa sur ce lit d'hôpital et entendant ce médecin, ce professeur de médecine dire, « Monsieur, vous êtes ici pour longtemps. » Nous ne savons pas de quoi vous souffrez, nous devons encore approfondir les examens. Ils m'ont regardé, je les ai regardés, mais en moi j'avais la paix. Psaume 103, mon âme
Bénis l'Éternel.
Vous connaissez ce psaume? J'ai toujours lu ça, je connais ce psaume, beaucoup d'entre nous l'ont lu, et c'est ce jour-là. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les fautes, et puis ensuite, qui guérit toutes. Cette parole s'est arrêtée. Cette parole, à un moment, a commencé à faire vibrer tout mon être. En cet instant, j'ai reçu la conviction que j'étais là, certes, mais j'étais là en retraite pour le Seigneur. Car je me suis retrouvé seul, loin de ma moitié. C'était pas facile pour elle, hein. Loin de mes enfants, loin de vous, que j'aime tant, que je porte dans mon cœur, loin de toute personne, seul, avec mon Dieu. Je me réveillais le matin avec lui, tout au long de la journée j'étais avec lui, je me couchais avec lui. Je me réveillais très tôt, avec lui je lisais, j'écrivais. J'ai vécu des moments extraordinaires et je bénis Dieu pour cette épreuve-là. Voilà. À un moment, cette parole, cette citation de la Bible est devenue un réma pour moi. Je l'ai saisie. Ce réma a suscité la foi en moi qui m'a amené à la guérison. J'étais convaincu que je sortirai, je me tiendrai devant vous et je proclamerai la parole. Alléluia. Et gloire au Seigneur. C'est donc une parole prononcée ou dite dans un but bien précis. Nous le verrons. Le Seigneur dit aux disciples, jetez votre filet là-bas. Pierre qui répond, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ton réma, je jetterai le filet là. Il y avait beaucoup de barques avec des pêcheurs. Ils n'étaient pas les seuls à pêcher. Cependant, cette parole était adressée à ceux qui étaient là, Pierre et ses amis. Et Pierre répond, sur ton réma, Seigneur, je jetterai le filet là-bas. Ils sont passés à plusieurs reprises au même endroit. Ils n'ont rien pris. Mais quand le Seigneur dit, la chose s'accomplit. Les poissons, là où ils étaient, ils ont entendu la voix du Créateur. Et tous sont convergés vers un point où il a dit, j'étais là-bas. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il pointe son doigt et tout se dirige vers et dans sa direction. Quand ils ont jeté le filet, ils ont pris beaucoup de poissons. Je peux m'imaginer les apôtres regardant le Seigneur. Je dis, mais ce n'est pas possible. Avec lui, tout est possible. Le réma. S'ils avaient dit, oh Seigneur, nous avons travaillé, ça ne sert à rien, nous sommes passés par là. Vous voyez, mes amis, l'importance de connaître cette parole spécifique pour une situation spécifique, dans un contexte particulier. J'ai beaucoup d'exemples, je reviendrai avec le temps. Donc voilà, mes amis, ce qui revient constamment lorsqu'on examine avec soin les versets et les passages. Le contexte où le mot réma est utilisé. Alors, il en ressort ceci. Alors que le mot logos a le sens plus général de la parole de Dieu, a une connotation de parole de Dieu pour tous, soyez saints, craignez Dieu, évangélisez, faites ceci, faites cela, le mot réma, lui, signifie plutôt une parole pour une personne en particulier, dans un but particulier, dans des circonstances particulières. Oh, alléluia! Quand vous avez une meute de chiens et que vous jetez une pierre, le chien qui aboie, c'est celui qui a reçu quoi? La pierre. C'est pas tout le monde qui aboie. Il n'y a qu'un seul chien sur qui ce caillou va tomber et qui va réagir. Eh bien, dans cette foule, enfants de Dieu, peuple de Dieu, il y a une parole qui sort. Eh bien, qui sort pour une personne. Mais il faut que la personne soit disposée à la recevoir. C'est pourquoi ne soyez pas distraits. Et nous verrons, ça peut être une parole, un verset biblique. Ça peut être une prophétie. Ça peut être une circonstance, un événement qui arrive, hop, il y a une conviction qui naît en nous. Et on s'est dit, oui, c'est le moment, je dois me lever et aller. Et on prend la décision. Les gens nous découragent. Qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas? T'as vu? Il n'y a rien là-bas? Non, non, non. Dieu m'a dit, c'est le moment, je pars. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. On a prié, Seigneur, je ne sais dans quel domaine investir. Il n'y a rien qui va, la conjoncture économique est difficile, etc. Et puis à un moment dans la prière, hop, il y a une conviction. Dirige-toi vers ça. Tu dis, mais logiquement, intellectuellement, tu dis, mais il n'y a rien qui marche dans ce contexte avec cette marchandise-là. Mais puisque tu as dit, je vais m'y lancer. Vous prenez conseil auprès de vos amis, hommes d'affaires ou femmes d'affaires, vous dites, oh là là, n'essayez pas. Moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Moi j'ai essayé, d'ailleurs je connais telle ou telle autre personne, de quoi te décourager. Mais tu ne marches pas selon les échecs des uns et des autres. Tu marches selon la parole de Dieu. Car nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Si ça n'a pas marché pour eux, il n'y a pas de problème. Beaucoup n'avaient pas péché. Mais quand Jésus est intervenu, ils ont eu une pêche miraculeuse. Eh bien, va, investis seulement. Et quand tu investis, quelques temps plus tard, hop, miracle. Le cours flambe par rapport à l'investissement que tu avais fait. Ça, c'est Dieu, mes amis. Il tient tout entre ses mains. En d'autres mots, le Logos agit dans les cœurs de croyants d'une manière plus globale. Nous nous sanctifions, nous faisons tout pour marcher dans la crainte de Dieu, nous exerçons notre ministère et tout ça. Oui, le Logos agit de manière globale en déposant dans nos cœurs la pensée de Dieu, tandis que le Rhéma touche plutôt un point en particulier dans notre vie. Alléluia. Une situation particulière qui suscite souvent une réponse immédiate. Dieu te dit, hop, je pars. Voyez-vous, nous le verrons. Le prophète est sur le mont Carmel, Élie. Il prie. La sécheresse est partout. Au bout de 3 ans, presque 3 ans et demi, le Seigneur lui dit, je vais faire tomber la pluie. Il va prier, il monte sur le Carmel, il intercède. Il demande à son serviteur, il dit, regarde un peu vers la mer, que vois-tu? Il regarde, il dit, mais il n'y a rien. Ok, ça ne l'a pas découragé, il a continué. Il a continué à la 7e fois, il dit, que vois-tu? Il dit, il y a un petit nuage, comme la paume d'une main. Un petit, l'homme a compris que Dieu avait répondu. Il dit, descends, va dire à Acab que la pluie va tomber. Vous voyez la foi suscitée par le Rhéma. Gloire à Dieu. Le Logos change les dispositions du cœur. Le Rhéma dépose dans le cœur une révélation pour un cas précis. Dans un sens, le Logos, parole générale de Dieu, sert de guide général aux croyants. Le Rhéma, parole personnelle de Dieu, sert de guide direct, circonstanciel et spécifique. Le Seigneur a dit dans Jean 6, versets 63 et 68, le Seigneur a dit ceci, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et le verset 68, Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, ici, d'abord au verset 63, C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, les rhéma que je vous ai dit sont esprit et vie. Et au verset 68, Pierre réagit. Que dit-il, Seigneur, mais à qui rions-nous? Tu as les rhéma de la vie éternelle. Le rhéma est esprit et vie. Vous comprenez pourquoi il est dit, la parole, c'est l'épée de l'esprit, tout tourne autour du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dépose cette parole. Il faut considérer, mes amis, la parole de Dieu comme un combustible. Et le Saint-Esprit est appelé donc à embraser ce combustible-là. C'est alors que le feu prend, alléluia. C'est comme l'essence, hein. Vous prenez un bidon d'essence, vous pouvez vous balader partout. Ça reste de l'essence, c'est tout. Mais prenez cette essence, mettez-le quelque part, et puis prenez une petite étincelle, jetez là où il y a l'essence. Qu'est-ce qui se passerait? La petite étincelle deviendrait une grosse flamme. C'est avec la parole, c'est ainsi avec la parole de Dieu. Oui, pour terminer, mes amis, le rhéma est une parole personnelle qui peut venir directement de la parole de Dieu, un verset que nous avons toujours lu, et puis un jour, on se dit, mais ce n'est pas possible. Je ne pouvais jamais m'imaginer que ce verset pouvait me bouleverser autant. Voyez-vous? Eh bien, une parole, pour une circonstance précise, une parole spécifique de la part du Seigneur, et nous verrons à partir des exemples concrets comment cette parole peut nous être communiquée. Ça peut être lors de notre méditation de la parole de Dieu, ça peut être au cours d'une prédication comme ici, ça peut être des circonstances, un événement, ça peut être une prophétie, nous verrons tout ça. Je me souviens, il y a beaucoup d'années d'ici, je suis en Anvers, à Hoboken, où j'avais été invité à prêcher. Je prêche, et à un moment je fais l'appel. Je commence à prier pour des gens, et puis je prie pour un monsieur, et puis tout s'arrête, les gens sont bénis, etc. Quelque temps plus tard, peut-être un ou deux ans, non, même deux ans plus tard, nous sommes dans une cérémonie de mariage, dans une fête de mariage, il y avait eu un mariage, et puis on est parti à la fête, nous sommes à Bruxelles. Et au moment d'aller nous servir, je vois un monsieur qui se dirige vers moi, qui me salue, bonjour, bonsoir, pasteur. Je lui dis bonsoir. Il dit, vous ne me connaissez pas. Quand vous êtes passé à Anvers, à l'église de Philadelphie d'Anvers, eh bien, vous aviez prêché. Quand je me suis avancé, vous aviez posez vos mains sur moi, vous avez commencé à parler, et pendant que, dans votre prière, vous avez prononcé des paroles qui me concernaient, j'étais dans un besoin particulier, vous avez commencé à parler, pour moi je priais simplement, vous m'avez tout dit, j'ai saisi, aujourd'hui j'ai la joie de vous annoncer que toutes ces choses se sont accomplies. Il avait saisi cette parole, n'est-ce pas? Et cette parole est devenue une réalité. N'allons pas loin ici. Vous vous rappelez, au cours d'une prédication, j'ai voulu illustrer une vérité à partir d'une... c'était une orange ou une pomme? Une orange, voilà. Voilà. Je voulais montrer comment notre vie doit être brisée. Pour que quelque chose de bien jaillisse. Vous vous rappelez? Pour ceux qui étaient là, j'ai pris l'orange. J'ai dit, voilà, si vous avez une orange comme ça, ben, vous pouvez la tenir, vous pouvez faire tout un poème là-dessus. Oh, belle orange, forme ceci, et tout ça. Il y a des gens qui ont cette capacité de sublimer leurs sentiments à partir d'un simple objet. Vous et moi, quand nous regardons, nous voyons le foufou, tout ça, et la chiquante, que sais-je, quand ils le regardent, oh là 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 là, ils vous en font tout un pomme. Enfin bref, mais Sans plus, hein. Si vous arrêtez simplement au niveau de l'observation, au niveau cosmétique, avec l'approche cosmétique et tout ça, ça s'arrêtera là. Vous ne pourriez jamais bénéficier des vertus d'une orange, entre autres la vitamine C. Mais pour en jouir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre pressé. Voilà. Alors, j'avais dit, voilà, si quelqu'un veut prendre cette orange, une sœur s'était approchée. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, parce qu'elle m'a vu, elle me verra plus tard. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous et moi, cette pomme, et plutôt cette orange, n'était qu'une illustration. Elle me dira plus tard, quand vous avez demandé, je m'étais levé en disant, en allant prendre cette orange, Seigneur, c'est un enfant que je prends. Et l'enfant est venu. Un jour, elle me l'a présenté. Vous voyez, mes amis. Donc, pour les autres là, c'était une pomme à croquer, une orange. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la pomme? Hein? Voyez? Eh bien, c'était une orange à croquer. Mais pour elle, c'était plus qu'une orange. À partir de ça, Dieu a mis sur son cœur. Alléluia. Ça, c'est le rhéma. Quand nous la recevons, tout devient possible. Alors qu'autour de nous, les gens se demandent, pleurent. Les gens se disent, c'est pas possible. Comment cette montagne peut-elle se déplacer? Mais Dieu dit, oui, avec mon rhéma, va et tu déplaceras cette montagne. Gloire à Dieu. Acclamons le nom du Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Vous voyez qu'il y a tant à dire, ça deviendra encore beaucoup plus clair lorsque nous verrons des cas pratiques dans la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à rechercher cette communion intense avec toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la crainte de ton nom, afin que nous puissions, ô Dieu, grandir dans cette sensibilité par rapport à ton esprit. Car avec cette sensibilité, nous pourrions alors discerner, Seigneur, ta volonté. Tu pourras alors déposer sur nos cœurs une pensée particulière en rapport avec un besoin particulier. Tu pourras alors déposer un rhéma dans notre cœur, dans notre vie, par rapport à une situation particulière. Et nous verrions, Seigneur, la chose devenir un véritable miracle pour nous. Alors aide-nous. Aide-nous à aimer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à la méditer jour et nuit. Aide-nous, ô Dieu, à marcher loin du péché. Car avec toi, tout est possible. Tout rhéma qui vient de toi finit toujours par porter du fruit dans l'espace et dans le temps. Alors aide-nous, Seigneur, que par le Logos, tu puisses nous transformer, tu puisses nous régénérer, nous donner une intelligence qui nous permette de discerner ton rhéma au travers des circonstances, au travers des événements qui surgissent dans notre vie. Car tant que nous sommes avec toi, tant que tu es avec nous, il n'y aura pas de hasard. Aucun événement ne pourra être, Seigneur, ne nous arrivera pas de manière fortuite ou contingente. Dès lors que nous sommes avec toi, tout ce qui nous arrivera aura été prévu par toi. Même des choses qui nous paraîtront imprévues. Mais avec toi, nous finissons toujours par comprendre que même ces imprévus ont été prévus par le Dieu souverain, le Dieu qui tient nos vies dans sa main, le Dieu dont la parole est créatrice, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Oh, merci pour tout. Merci, Seigneur.